France Musique. Muraro au piano. Roger Muraro.
Non, monsieur. Bavarde. Vous bavardez toujours. Là, soyez avec nous. Vous avez la langue bien pendue, bon sang. Nous reprenons numéro 17. Qui a fait ça?
C'est moi, maître.
Et où vous croyez-vous?
À l'opéra, maître.
C'est amusant. Sortez! Mephisto, Marguerite, Faust, sortez! Je ne veux personne dans la salle lorsque je travaille! Je ne veux que Berlioz et moi! Voilà!
Quelle drôle d'idée de commencer cette séquence Berlioz-Liszt par la verve de Louis de Funès, chef d'orchestre à l'opéra, dirigeant la marche hongroise de la damnation de Faust de Berlioz. Le grotesque des propos et la mégalomanie du chef Stanislas Lefort sont à l'image du personnage Berlioz avec ses histoires à dormir debout, ses passions imaginaires, ses attitudes exagérément dramatiques. Le compositeur publie ses mémoires dont les récits commencent dès 1831. Il avait alors 28 ans. Mais Berlioz était inspiré et il était extrêmement lucide sur son génie. Voici une citation de Shakespeare que Berlioz faisait sienne. La vie n'est qu'une ombre qui passe. Un pauvre comédien qui, pendant une heure, se pavane et s'agite sur le théâtre et qu'après on n'entend plus. C'est un conte récité par un idiot plein de fracas et de furie et qui n'a aucun sens. Ah, ce Berlioz! C'est aussi une drôle d'idée pour un pianiste de s'investir dans la vie et l'œuvre de ce compositeur qui n'aimait pas particulièrement le piano. En matière d'instruments polyphoniques, il ne connaissait que la guitare. Mais je vous en dirai davantage un peu plus tard, après avoir tenté de cerner le personnage. Berlioz disait « Ma vie est un roman qui m'intéresse beaucoup ». Berlioz, qui s'engageait dans une carrière médicale, rebrousse chemin après la première dissection d'un cadavre trouvé dans les rues d'un quartier pauvre de la capitale. L'opéra lui tend les bras tous les soirs avec Gluck, Spontini. Au théâtre, on présente Hamlet de Shakespeare à l'Odéon, en langue originale, excusez du peu. Berlioz sort de la représentation tout autant amoureux d'Ophélie que de l'interprète, Harriet Smithson. C'est décidé, Harriet sera sa muse, sa démence. Son amour le pousse aux errements dans les rues de Paris, tombant mort de fatigue sur une table de café, parfois même dans les campagnes, des nuits entières s'effondrant dans la neige. Comme dit Victor Hugo, c'est la position du ver de terre amoureux d'une étoile. Que les choses soient claires, tout est dans l'imaginaire de Berlioz, Harriet et le musicien ne se sont pas encore rencontrés. Seules quelques lettres sont restées sans réponse. Et pourtant, Berlioz tenace épousera Harriet le 3 octobre 1831 et Liszt sera témoin au mariage. Dans Berlioz, l'homme littéraire est indissociable de l'homme musique. Nous sommes à la veille des événements de 1830 et le romantisme français explose. Victor Hugo présente sa bataille d'Hernani. Les journées de juillet sont immortalisées par les Trois Glorieuses de Delacroix. Et c'est à la fin de cette année 1830 que sera créée la Symphonie Fantastique. Quelques mois auparavant, en avril 1829, Berlioz écrivait à Goethe.
Monseigneur, depuis quelques années, Faust étant devenu ma lecture habituelle, à force de méditer cet étonnant ouvrage, quoique je ne puisse le voir qu'à travers les brouillards de la traduction, il a fini par opérer sur mon esprit une espèce de charme. Des idées musicales se sont groupées dans ma tête autour de vos idées poétiques, et bien que fermement résolu à ne jamais unir mes faibles accords à vos œuvres sublimes, peu à peu, la séduction était si forte, le charme si violent, que la musique de plusieurs scènes s'est trouvée faite presque à mon insu. Je viens de publier la partition, et quelque indigne qu'elle soit de vous être présentée, je prends aujourd'hui la liberté de vous en faire hommage. Je suis bien convaincu que vous avez reçu déjà un très grand nombre de compositions de tout genre inspirées par le prodigieux poème. J'ai donc lieu de craindre qu'en arrivant après tant d'autres, je ne fasse que vous importuner. Mais dans l'atmosphère de gloire où vous vivez, si des suffrages obscurs ne peuvent vous toucher, du moins, j'espère que vous pardonnerez à un jeune compositeur qui, le cœur gonflé et l'imagination enflammée par votre génie, n'a pu retenir un cri d'admiration.
Goethe sollicite l'avis de son musicien Carl Friedrich Zelter. La réponse de ce dernier est horrible.
Certaines gens ne peuvent indiquer leur présence que par des expectorations bruyantes, des éternuements, des croassements, des vomissements. Monsieur Hector Berlioz paraît être de cela. L'occasion se trouvera bien d'utiliser un jour ou l'autre, dans quelques leçons, cette excroissance, résidu d'avortement produit par un hideux insecte.
Le courrier adressé à Goethe était pourtant plein d'une respectueuse admiration. 3 ans auparavant, au sujet d'un opéra de Rudolf Kreutzer, La mort d'Abel, le style de Berlioz était bien plus jaculatoire, avec pas moins de 18 points d'exclamation pour ponctuer les interjections. Un petit extrait du courrier. Ô génie, je succombe. Je meurs, les larmes m'étouffent, la mort d'Abel, Dieu, quel infâme public, il ne sent rien. Que faut-il donc pour l'émouvoir? Ô génie, sublime, déchirant, pathétique, ah, je n'en puis plus, il faut que j'écrive. À qui écrirai-je? Ô génie, non, je n'ose, c'est à l'homme, c'est Kreutzer. Bon, etc., etc. Le dernier « ah, génie » est ponctué de 4 points d'exclamation. La symphonie fantastique, créée en décembre 1830, provoque des réactions controversées. Schumann au sujet de la fantastique. L'époque contemporaine n'a certainement aucune œuvre à produire où des rapports semblables de mesure et de rythme aient été plus librement unis et combinés avec des dissemblances. C'est là une chose si personnelle à Berlioz, si conforme à son caractère méridional et si étrangère à nous autres du Nord, que l'impression désagréable qu'on en ressent au premier moment et l'accusation d'obscurité que l'on émet sont bien excusables et compréhensibles. Mais aussi, de quelle main hardie tout cela est exécuté, en sorte que rien absolument ne se puisse ajouter ou effacer sans enlever à la pensée son acuité d'expression, sa force. Il semble que la musique veuille revenir à ses origines, à cette époque où la loi de la rigueur de la mesure ne l'oppressait pas encore, et s'élever dans son indépendance jusqu'à un langage libre de tout lien, à une plus haute et poétique ponctuation. C'est que, dans les premiers transports d'une vigoureuse âme de jeune homme, repose une force tout originale et encore non gaspillée. François-Antoine Habeneck dirige l'orchestre de la Société du Conservatoire pour la première de cette symphonie fantastique. Peut-on imaginer l'impression qu'elle a laissée ? Les effets orchestraux sont spectaculaires, mais on aurait tort de réduire Berlioz à ses trouvailles d'orchestrateur. La nouvelle forme musicale de sa symphonie donne libre cours aux effusions, à l'instant émotionnel, Berlioz s'éloigne de la concision classique. Il a besoin d'espace. La musique est émancipée, libre et fait ce qu'elle veut, dit-il. Franz Liszt a 19 ans. La figure de proue du romantisme au piano était présente à la création de la fantastique. Thank you. Le ton épique, les couleurs, les images que Berlioz parvient à évoquer séduisent Franz Liszt, lui aussi en grand désir de nouveauté. Un mouvement musical a éclos et le jeune pianiste, confirmé dans son instinct, va enfourcher la monture. Liszt se lie d'amitié pour Berlioz et ce sera le début d'une longue et féconde collaboration. Liszt et Berlioz seront d'ailleurs les seuls collègues s'octroyant la liberté de se tutoyer. Liszt entraîne Berlioz après le concert pour un dîner chez lui. Berlioz parle du Faust de Goethe au jeune pianiste qui ne connaît pas encore cette œuvre. Elle inspirera à Liszt sa Faust symphonie et la pièce de théâtre va habiter le jeune Hongrois toute sa vie. Sa sonate en si mineur en témoigne, habitée tout à la fois par l'esprit faustien, Marguerite et la rédemption par la Béatrice de Dante dans la Divine Comédie. Ce chef-d'œuvre condense toutes les traditions de la sonate classique déclinée en poème symphonique. Liszt a aussi sa sonate fantastique. Veut lire la partition d'orchestre de la Symphonie Fantastique. Elle n'est pas éditée. Berlioz a certainement quelques craintes à laisser son manuscrit entre les mains d'un autre musicien, pianiste de surcroît, des réticences également quand rapidement Liszt lui parle d'une transcription au piano seul. Liszt cherche lui aussi un cadre expressif plus vaste, terreau de toutes les imaginations. Ses premières compositions étaient surtout des pièces brillantes de virtuosité, de la musique à pianiste quoi. Nos deux compères se retrouvent dans un désir commun de musique instantanée, libre de toute contrainte.
C'est l'été sur France Musique. Muraro au piano. Roger Muraro.
Propos de Franz Liszt. Le piano tient à mes yeux le premier rang dans la hiérarchie des instruments. Il le doit en partie à la puissance harmonique qu'il possède exclusivement et par suite de cette puissance à la faculté de concentrer l'art tout entier. Dans l'espace de 7 octaves, il embrasse l'étendue d'un orchestre et les 10 doigts d'un seul homme suffisent à rendre les harmonies produites par le concours de plus de 100 instruments concertants. Liszt va explorer les timbres, développer son sens du piano orchestral, inventer des procédés techniques nouveaux pour retraduire l'espace sonore de l'orchestre berliozien et réussir la gageure de donner à cette partition l'illusion d'une réelle œuvre pour piano seul, la partition la plus longue écrite à cette époque, 50 minutes de narration, de virtuosité époustouflante, de drame théâtral, une vie de héros et de plus, sans tomber dans la transcription note à note de la partition d'orchestre. La tâche est rude, car l'orchestre de Berlioz ne s'apprivoise pas facilement. D'ailleurs, les pages d'orchestre de Berlioz ont quelquefois plus de 30 portées musicales. On y entend des groupes de solistes à l'intérieur de l'orchestre. Des dialogues entre instruments volontairement éloignés qui créent un espace inédit. Avec de réelles cloches cachées dans l'arrière-scène, la musique offre des visions infernales et insondables accentuées par les contrebasses à cordes, cuivres et tubas lugubres. Berlioz use de pizzicati ou des battements d'archet col legno ou sul ponticello qui me font penser au claquement des os du squelette. Une Marseillaise surgit en fanfare, triomphante et guerrière, nous rappelant soudainement les journées de juillet 1830. La liste est longue d'effets spéciaux de spatialisation. N'étant pas chef d'orchestre, mais pianiste, vous aurez compris l'intérêt que j'ai porté à cette transcription par Liszt de cette symphonie que je n'avais pas eu l'idée de lire avant 2009. Oui, 2009. Ma curiosité s'est trouvée comblée. J'ai été, je dois dire, époustouflé par la réalisation de Franz Liszt. Berlioz, le texte de Berlioz, j'ose dire qu'il s'en est trouvé magnifié. C'est pour cela que j'ai voulu donner au titre de cette émission mon Berlioz Liszt, comme un vrai tandem. Et je reviens évidemment à ce travail de Liszt, peut-être pour apporter quelques précisions sur les nouveautés, car Liszt, évidemment, vient aussi du pianisme de Beethoven, le premier à avoir apporté des grandes, grandes innovations à ses claviers qui s'élargissaient en ce début du XIXe siècle. Liszt va donc continuer dans le sens de ses recherches, trouver d'autres moyens techniques, s'éloigner du piano traditionnel comme on en trouve chez Chopin, par exemple, dans sa troisième ballade. Vous savez... « Là, on est dans une écriture extrêmement raffinée, mais totalement éloignée, évidemment, de ce piano moderne que Liszt va créer pour retraduire la folie berlioisienne. Tout au long de sa symphonie, Berlioz développe son thème principal, le thème artiste exposé dans son premier mouvement, Rêveries et Passions. Le voici, ce thème. C'est tout à fait Berlioz d'utiliser cette mélopée au violon, accompagnée par des battements sourds du cœur, par les contrebasses dans l'orchestre. Ce thème, il le reprend à toutes différentes manières. Par exemple, dans la valse, le bal plutôt. Dans le final, il le reprend d'une manière beaucoup plus sarcastique, à l'extrême aigu. Il est même assez étrange à l'orchestre, puisque c'est la petite clarinette à l'aigu qui fait ses petites trilles, ses petits croupettos avec les hautbois clarinettes. Un petit accompagnement comme ça, scandé, ça fait... Donc ce thème est justement le moteur complet de cette symphonie. Liszt doit inventer une manière de toucher le piano pour recréer cet timbre que nous propose l'orchestre, justement. Et pour jouer les périlleux et larges croisements de mains à toute vitesse de la feinte de ce mouvement, alors il faut une main gauche telle une patte de chat pour griffer les notes du haut avec l'index. La difficulté d'exécution n'est pas gratuite, il faut bien préciser ça. Tout ce que Liszt a écrit est motivé par l'excitation musical suggéré par Berlioz. Et ces croisements de main gauche créent une tension, une effervescence à tout ce passage. Les notes que vous entendez, c'est la main gauche qui croise par-dessus une main droite, tout en croche, en trémolo, très vif et très excitant. Un autre détail, pour donner l'illusion d'une agitation fébrile, voire même électrique, Liszt crée un crépitement de gamme en accord alterné aux deux mains. C'est un procédé tout nouveau pour l'époque, je crois. Il y a un moment écrit animato, où dans l'orchestre, toute une gamme... Une gamme harmonisée en accord de sixte, Liszt a trouvé le moyen de faire ça en accord alterné gauche-droite à toute vitesse. Ce procédé en accord alterné aux deux mains, se chevauchant en grimpant vers l'aigu, Liszt va s'en servir également dans une étude transcendante, l'étude transcendante en fa mineur, numéro 10, mais cette fois avec un dessin beaucoup plus mélodique. On écoute un peu du début de l'étude transcendante par Claudio Arrau. Thank you. Voilà quelques procédés qui, je crois, étaient tout nouveaux à l'époque dans la technique purement pianistique. Il va sans dire qu'il ne s'agit pas pour Franz Liszt de faire l'étalage de sa science nouvelle. Tout ça est évidemment motivé par un discours musical et motivé par une impulsion. Il n'y a rien de moins exhibitionniste, je dirais, au piano que cette symphonie fantastique. Étrangement d'ailleurs, parce que Liszt était un homme qui aimait séduire, était un homme qui avait de la, comment dire, une élégance naturelle, une virtuosité à couper le souffle. Là, avec le texte de Berlioz, il a trouvé, j'allais dire, presque plus fort que lui. Et tout ce que Liszt a rédigé n'allait que dans un sens, c'est restituer le caractère de folie, oui, je peux dire ça, le caractère de folie de cette symphonie par Berlioz.
Thank you.
Alors, on a eu un exemple au piano, bien sûr, de ce premier mouvement, mais je continue dans la lecture de cette symphonie et des nouveautés que Franz Liszt a apportées dans le maintien du pianiste face à son instrument. Je prends l'exemple du début de la scène au chant. La scène au chant est la troisième mouvement de cette symphonie. Et ça commence à l'orchestre par des appels de cor anglais auxquels répond le hautbois au loin sur l'autre versant de la montagne. Alors, le cor anglais fait ceci. Et le hautbois. Il eût été très simple pour Franz Liszt de jouer ces quelques notes à la main gauche, et puis comme le hautbois joue un peu plus à l'aigu, de faire jouer ces notes-là à la main droite. Non, Francis fait justement l'inverse. C'est qu'il expose le chant du cor anglais de manière marcato, écrit marcato, tout en étant piano, avec la luna corda. C'est-à-dire, il veut que le thème soit tout de même prononcé dans une nuance piano, mais cependant sonore, mais sonore avec la pédale de sourdine, pour simuler cette sonorité, je dirais, un peu moins enveloppée peut-être que celle du violoncelle, un peu plus ange double en tout cas du cor anglais. Donc avec la sourdine, ça fait ça. Et il le confie à la main droite pour lui donner un caractère plus présent. La réponse au hautbois, il l'a fait jouer par la main gauche. Résultat, le pianiste est obligé de se pencher, de tourner un peu son buste, orienter son écoute différemment, évidemment, et son attitude même. Son attitude même suggère une écoute plus lointaine. Vous voyez, donc, c'est pas seulement. Alors, vous me direz, c'est un détail. Oh là, Muraro et Pinaille. Non, ça n'est pas un détail. Je trouve que c'est une vraie sensibilité. C'est vraiment mettre l'accent sur une spatialisation du son. C'est exactement ce que Liszt a fait.
Thank you.
étrangement, c'est Franz Liszt qui m'a permis de comprendre ce qu'est la texture Berlioz. La symphonie est une matière sonore extrêmement fine, ciselée, jamais empâtée. Mais, et c'est bien embêtant, Liszt a laissé quelques zones d'ombre. Certains passages doivent être complétés, étoffés. Est-ce que Liszt, selon son humeur, privilégiait telle ou telle autre couleur ? Improvisait-il au concert ? Je n'en sais rien. Il a fallu que je réécoute la symphonie d'orchestre, partition en main. J'avais besoin de me baigner dans l'esthétique sonore de cette œuvre, entendre, voir les couleurs qui s'en dégageaient pour compléter les éléments que je considérais manquants. Ça m'a permis d'enrichir quelques effets. Par exemple, il y a, vous le savez, toute cette fin de la scène au chant qui simule l'orage. Et il y a un grand solo à ce moment-là de roulement de timbales pour imager enfin la foudre au loin. Bon, mais le grondement par Liszt se limite à ça. Or, dans l'orchestre de Berlioz, il y a effectivement ce roulement, mais ce roulement est ponctué par des attaques d'un autre timbalier. Il doit y avoir quatre timbaliers, si je ne me trompe pas, dans cette symphonie. On me rectifiera, l'erreur n'est pas très grave. Alors, par exemple, dans la deuxième phrase de ce cor anglais, quand il prend avec le bémol, do, sol, un roulement commence très bas. Et à l'intérieur de ce deuxième roulement, on a... Il n'y a pas que le tonnerre qui gronde, il y a aussi l'attaque qui suggère la foudre. Pom, pom, pom. Mais pourquoi ai-je joué cette symphonie au piano ? En 2008, c'était le centenaire d'Olivier Messiaen. J'ai dû, je crois, jouer presque 20 fois Turangalila la symphonie, plus les générales publiques enregistrées bien souvent, tout au long de cette année. C'est un travail lourd, donc avec chaque nouvel orchestre, une nouvelle expérience. Barenboim, début janvier 2008, m'entend jouer Turangalila avec l'orchestre de la Staatskapelle de Berlin sous la baguette de Zubin Mehta. Dans la foulée, Il me propose de venir jouer le deuxième concerto de Bartok à l'occasion de l'ouverture de la saison des concerts de la Scala qui avait été en travaux depuis plusieurs saisons. C'était un grand honneur pour moi, bien sûr, mais un honneur empoisonné, car je n'avais pas le deuxième de Bartok, le deuxième concerto, à mon répertoire. Et dans cette année Messian, je devais apprendre cette œuvre nouvelle, redoutable, pour la tenir prête pour le mois de septembre 2008. Inutile de vous dire, j'ai bossé comme un fou. Et la première répétition avec Barenboim a eu lieu à Milan, un matin à 11h. La veille, je répétais une autre œuvre de Messiaen, Des canyons aux étoiles, avec la BBC de Glasgow, ce qui signifie levé à 4h du matin, vol Glasgow-Londres, correspondance Londres-Milan, arrivé à Milan à 9h30, le temps d'avaler un café et une banane pour me donner un petit peu d'énergie, rencontrer Barenboim, à qui je dis immédiatement que c'était ma première expérience avec ce concerto, et bien entendu, avec lui et la Scala. Ah, la tête de Barenboim. Il m'a pris pour un fou. Jouer le deuxième de Bartok pour la première fois avec une telle affiche, pouvez-vous imaginer? Bref, cependant, les concerts se sont bien passés. Et dans le programme de ces concerts, il y avait en seconde partie la symphonie fantastique de Berlioz que dirigeait justement Barenboim. Et je dois dire, c'était très beau. Et je lui ai dit. Je lui ai dit tout ce que j'avais entendu de cette symphonie sous sa direction avec cet orchestre magnifique. Et il me répond, « Mais vous la jouez au piano ?» Et je réponds, « Non. Mais pourquoi ?» Ben vous savez, mais si on me prend beaucoup de temps, je n'ai pas eu le temps de terminer ma phrase, je me suis fait engueuler. Mais ça suffit, alors quoi, on connaît Muraro parce qu'il joue Turangalila, vous avez peut-être autre chose à faire. La messe était dite, j'étais vexé. Je ne vous dirai pas ce que je lui ai répondu, parce que ça l'a vexé aussi. Simplement, je me suis mis à travailler la symphonie de Berlioz, ça a été un défi pour moi, j'ai mis 8 mois pour l'apprendre.
Thank you.
C'est l'été sur France Musique. Muraro au piano. Roger Muraro.
Dans la toute dernière partie de cette symphonie, dans la cinquième partie, le songe d'une nuit de Saba, il y a un moment où, vous connaissez la symphonie fantastique, il y a dans les concerts avec l'orchestre les cloches qui sont normalement cachées dans l'arrière-scène et qui font entendre d'un seul coup une espèce de glas funèbre que... Alors là, le piano est extrêmement limité, évidemment, quand on entend la percussion et toutes les harmoniques que dégage une vraie cloche quand elle joue cachée derrière la scène. L'effet, je vous assure, est saisissant, bien entendu. Dans ce moment de la symphonie de Berlioz, l'effet est très frappant. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Écoutez, avec le piano, il faut faire quelque chose, bien entendu. Et au lieu de ne faire qu'une note, Liszt l'enrichit par une octave à la main gauche dans le grave. Et si, malheureusement, on joue cette octave aussi fortée que l'attaque de la main droite qui donne la note de cette cloche, on fout tout par terre. Il faut donc privilégier l'attaque de la main droite. Que la main gauche ne soit là que comme un écrin ou comme un porteur des vibrations de l'attaque de la main droite. Et on l'a un peu plus loin encore quand le thème du Dies Irae prend avec les cloches au milieu qui viennent. Donc le thème du Dies Irae. Là, on a vraiment un piano qui n'est plus un piano. On a un instrument qui est un vecteur, oui, de transmission entre ce que devrait être l'orchestre, ce qu'est l'idéal sonore. Enfin, Liszt, là, a fait preuve d'un très, très grand génie. Et je rappelle qu'il avait seulement 19 ans.
Thank you.
Nous venons d'entendre Le songe d'une nuit de sabbat, cinquième partie de la symphonie fantastique de Berlioz, transcription par Franz Liszt. Alors, voilà, chers amis, je voulais justement vous parler de ce travail qui m'a passionné, qui m'a ouvert des horizons, qui m'a confirmé d'ailleurs une chose, c'est que, comme le disait Franz Liszt, le pianiste a la possibilité avec ses 10 doigts de suggérer tout un ensemble, tout un orchestre. Schumann en parle d'ailleurs dans les termes encore plus précis et évidemment avec tout le talent de Schumann. En quelques phrases, Schumann résume tout le propos que je viens de tenir sur cette symphonie. Liszt a travaillé cette réduction avec tant d'ardeur et d'enthousiasme qu'elle doit être considérée comme une œuvre originale, un résumé de ses profondes études, une école pratique du clavier pour l'exécution des partitions. Cet art de l'interprétation, c'est complètement différent du jeu de détails du virtuose, l'extrême variété de touchés qu'il exige, l'emploi si efficace de la pédale, la combinaison bien claire des diverses parties, la compréhension des masses, bref, la connaissance des ressources et des secrets nombreux que cache encore le piano, tout cela ne peut être l'affaire que d'un maître et d'un génie d'interprétation tel que Liszt s'est distingué entre tous. Dans ces conditions, la réduction pour piano peut se faire entendre hardiment à côté de l'exécution orchestrale elle-même. Et c'est aussi de la sorte que Liszt l'a joué en public à Paris, il n'y a pas longtemps, pour servir d'introduction à une symphonie postérieure de Berlioz. Vous l'aurez compris, Schumann fait référence au mélologue Lélio ou Le Retour à la Vie, dont nous écoutons un extrait dans la version de Charles Dutoit avec l'Orchestre de Montréal, et c'est Lambert Wilson qui en est le récitant.
Thank you. Assez pour aujourd'hui. Votre exécution est remarquable, par la précision, l'ensemble, la chaleur. Vous avez même reproduit plusieurs nuances fort délicates. Vos progrès sont manifestes. Je vois que vous pourrez aborder maintenant des compositions d'un ordre beaucoup plus élevé que cette faible esquisse. Adieu, mes amis. Je suis souffrant. Laissez-moi seul. Encore.
Nous écoutions un extrait du mélologue Lélio ou Le Retour à la vie dans la version de Charles Dutoit avec l'Orchestre de Montréal et Lambert Wilson était le récitant. Je remercie Lambert Wilson pour ses lectures et je remercie bien sûr chaleureusement l'École normale supérieure de musique de Paris qui nous accueille dans sa salle Cortot. L'équipe du jour était composée de Julien Bourdet, Tanguy Le Corneau à la prise de son, Xavier Carrère était l'attaché de production et Max James à la réalisation. Vous pouvez retrouver les détails de notre programmation musicale sur la page de l'émission Muraro au piano. Vous pouvez également réécouter et télécharger cette émission sur le site francemusique.fr et sur l'application Radio France. Et je vous dis à la semaine prochaine.
À réécouter sur francemusique.fr.